et bonne année, comme on dit encore à chacun d'entre vous. Je ne vais pas rajouter d'autres choses que ce que Gisèle a souhaité à chacun d'entre nous, puisque c'est vraiment quelque chose qui est juste, hein, que le Seigneur déverse sa vie en nous. Et je ne sais pas si vous avez eu quelques dommages cette semaine, mais nous avons traversé neige, verglas, vent violent, et je ne sais pas si parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont eu un souci ou pas. C'est une vraie question. J'ai l'impression qu'en tout cas, personne n'a donc évoqué de dégâts. Voilà, il ne semble pas non plus qu'il y ait eu de personnes en situation périlleuse, et c'est pour ça que nous avons fait en sorte que nos réunions de semaine se passent sur l'application Zoom. Et c'était vraiment encourageant mardi de voir bien plus de personnes sur Zoom que nous n'en avons sur place. Et peut-être que c'est un appel pour nous à quelque chose de temps en temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était avec joie que nous avons confié cette année à notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais prendre le temps d'une promesse qui nous est faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que c'est une promesse qui peut être votre, on va dire, promesse, la promesse pour 2026, mais ça s'étend bien au-delà de 2026. Nous avons chanté tout à l'heure le retour du Seigneur, nous avons anticipé ce retour en chantant la grandeur, la victoire du Seigneur qui se manifestera clairement lorsqu'il sera sur son retour parmi nous, sur cette terre. Mais entre-temps, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'il a jugé bon de nous laisser. Je vous propose pour cela d'aller dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Ah, le frère m'a laissé beaucoup de temps. Ah, c'est génial. Je vais quand même faire attention. Vous me connaissez, vous savez que je peux déborder. Mais non, voilà. Je vous propose donc cette lecture. Ah, pardon, tu avais déjà avancé. Merci. C'est donc Jésus-Christ qui nous parle et qui nous dit... Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, distingué de l'Iscariote, lui dit, « Mais Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans ce texte de ce matin, il y a là, au cœur de ce texte, une interrogation de l'apôtre Jude, en tout cas de celui qui suivait le Seigneur, qui s'appelle Jude, qui est tout à fait légitime. Cette question, c'est, mais comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? En fait, Jude souhaitait que Christ se manifeste dans sa gloire, se manifeste dans son autorité, que Christ se manifeste dans qui il est, n'est-ce pas, Dieu, au monde, et pas seulement à ses disciples, à ceux qui croient en lui. Et en ce début d'année, nous pourrions justement poser cette même question, formuler cette même demande. Seigneur, pourquoi tu ne te manifestes pas au monde ? Pourquoi tu ne nous montres pas à tous, ici-bas, sur cette terre, qui tu es ? Nous sommes, vous et moi, en train de justifier le fait que nous croyons en lui, dans notre entourage, Et nous sommes au milieu de gens qui, pour beaucoup d'entre eux, ne croient pas. Pourquoi tu ne te manifestes pas ? Seigneur, nous expliquons avec nos mots, nous essayons de montrer avec nos actes, et aussi nous essayons de témoigner par nos arguments de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous essayons de témoigner, de dire ton autorité et ton amour à ce monde. Et on est si peu efficace pour le faire, n'est-ce pas ? On aimerait que ça ait un impact plus grand, que ça soit quelque chose qui, convainque davantage nos proches, nos amis, nos collègues. Seigneur, ça serait tellement bien que tu puisses te révéler, te montrer à ce monde-là, afin qu'ils te connaissent. Seigneur, je vais un peu plus loin que cette prière ou cette demande de Jude. Interviens, fais quelque chose pour ce monde, sauve, fais des choses qui pourraient montrer et fermer la bouche de ceux qui ne croient pas. Une démonstration, un témoignage public, quelque chose qui pourrait dire « c'est incontestable, Christ est roi, Christ est notre sauveur ». Pourquoi tu ne te manifestes pas au monde ? Cette question de Jude, nous pouvons nous la poser, et c'est une question légitime, et peut-être que vous nous visitez pour la première fois, je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, ceux qui nous visitaient, mais eh bien, vous peut-être êtes ici en attendant justement cette manifestation claire, on va dire souveraine de Dieu, vous attendez cela pour croire. Il y a tellement de gens qui vont dans des rassemblements spirituels pour justement attendre quelque chose, pour dire « Ah, ça y est, oui, je suis convaincu maintenant. » La Bible est claire, sachez-le. La Bible est claire, cette question que pose Jude, la Bible y répond. Oui, le jour viendra où Christ se manifestera dans toute sa gloire, où Christ reviendra du haut des cieux. C'est dit dans beaucoup de textes du Nouveau Testament et c'est affirmé comme une certitude, comme un événement à venir. Il ne s'agit pas là de quelque chose de souhaité seulement, mais un jour, quand la trompette sonnera, nous dit la Bible, eh bien, le Seigneur reviendra. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il nous laisse le choix, parce que lorsqu'il reviendra, il n'y aura plus de choix. Le choix sera déjà arrêté. Et c'est ce que nous comprenons en lisant la parole de Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Oui, mais quand le Seigneur va se manifester, à ce moment-là, le choix ne sera plus possible. Il y aura ceux qui ont cru par la foi, parce que nous sommes sauvés par la foi et non par la vue. Ceux qui ont cru par la foi et ceux qui n'ont pas cru. Et c'est là que le Seigneur fera un tri. Alors, la réponse de Jésus à cette question de Jude, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'elle est complètement à côté de la réponse, de la question. Il demande à ce que Jésus-Christ se manifeste. Et Jésus entoure cette demande, avant et après, par une réponse qui, encore une fois, va attirer notre attention. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Si quelqu'un m'aime, verset 21, il sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La réponse de Jésus, il faut quand même que je passe les diapos, cette question. La réponse de Jésus, c'est une condition. La réponse de Jésus, c'est une condition. Si quelqu'un m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur ? Je t'ai accepté comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Qu'est-ce que tu as toute ma gratitude. Qu'est-ce que ça signifie, cette condition qui est là ? Christ, dans ce texte, fait le lien entre l'amour que nous lui portons et l'importance que nous donnons à ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dans ce texte, Jésus-Christ fait le lien, premièrement, entre l'amour que nous lui portons et l'importance que vous et moi nous accordons à sa parole, à ses commandements, à ses instructions. Souvent, les chrétiens, on se pose la question, mais comment on peut aimer Christ ? C'est compliqué d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, n'est-ce pas ? Et les gens du monde nous disent, ouais, tu aimes qui ? On chante en regardant là, mais il n'y a rien là, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu... Et on peut se poser cette question, mais quelle est la preuve d'amour hein, que le Seigneur attend de nous ? Et clairement, le Seigneur nous dit, cette preuve, elle est là. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde mes commandements, c'est ça qui montre qu'il m'aime. Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu et nous chantons cet amour. Nous espérons l'aimer, n'est-ce pas ? En tout cas, répondre à l'amour qu'il a pour nous et nous espérons de l'aimer comme il doit être aimé. Ça doit se voir. Ça doit se voir comment ? On va essayer de préciser ce que ça signifie, n'est-ce pas, de garder ses commandements. Nous savons que dans l'Ancien Testament, et notamment dans les textes où il est question de la loi de Moïse, la loi de Dieu pour les hommes, on recense, on classifie, on va dire les hommes aiment bien classifier, 613 commandements, 613 ordonnances. 613, tu dois, tu ne dois pas. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois, mais tu ne dois pas ça non plus. 613. Nous connaissons ce que l'on appelle le décalogue, c'est-à-dire la loi que Dieu a donnée sur des tablettes à Moïse, qui, elle, est de 10 commandements. Déca, 10, n'est-ce pas ? 10 commandements. Et ce n'est pas l'objet du message de ce matin. Quand on pose la question à Jésus-Christ, il va donner 2 instructions. 613, c'est compliqué de s'en souvenir, n'est-ce pas ? C'est un petit peu, voilà. On n'est pas des chefs religieux qui apprenons ça méticuleusement. 10, les premiers, on s'en souvient. Les derniers, peut-être un peu moins bien, même si ça a du sens de les connaître. Mais quand on arrive à ce que Dieu nous dit, eh bien, ces 2 commandements dans la bouche du Seigneur. Vous les connaissez, ces commandements, n'est-ce pas ? Le premier, oui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, ouais, le premier ne me pose pas trop de problèmes. C'est un vrai désir du cœur. Le second m'en pose un petit peu plus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avoir ses commandements, comme il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, cela signifie les connaître, ça signifie se les approprier, ça signifie les préserver comme un trésor dans notre cœur, les protéger, les considérer comme quelque chose de fondamental, fondamentalement important aux yeux de Dieu et fondamentalement important dans ma vie. Garder les commandements, comme il est dit dans ce texte, c'est s'attacher à se poser la question, se laisser interpeller au fond du cœur. C'est là faire en sorte qu'on ne travestisse pas la volonté exprimée de Dieu dans ses commandements. C'est se les approprier. C'est quand même autre chose que de pouvoir réciter. Il y est question, dans ces 2 mots, avoir et garder quelque chose que l'on possède, que l'on garde individuellement, personnellement, dont on est redevable quelque part. Je voudrais faire une comparaison, même si ce n'est pas une vraie comparaison, mais vous savez qu'il y a toutes sortes de gens qui collectionnent les choses, n'est-ce pas ? J'ai appris même qu'il y a des collectionneurs de grille-pain. Alors, j'ai cherché de savoir comment on appelle un collectionneur de grippins. Je n'ai pas trouvé le mot. Mais il y a des gens qui collectionnent les grippins. Vous, vous allez faire vos courses. Eux, ils sont là dans le rayon ménager, électroménager. Ah, je ne l'ai pas, celui-là. Ce grippin, j'ai trouvé ça très, très étonnant. Bon, j'ai collectionné les timbres quand j'étais enfant. Les pièces, j'en ai pas eu beaucoup. Ça n'a pas marché longtemps. Mais voilà, on aime collectionner les choses. Et quand on collectionne, eh bien, on connaît la valeur de ces timbres. On connaît la valeur de ces objets. Les voitures aussi, il y en a qui collectionnent les voitures, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui collectionne les voitures? J'aimerais bien en avoir une autre, si vous l'avez. Sur le coup, on connaît la valeur. On sait même comment il faut faire pour l'entretenir et on va suivre méticuleusement. Voilà. Si je dois changer cette pièce, il faut absolument que je prenne une pièce d'origine. Il y a des gens qui sont capables de vous donner les détails de l'année, du mois, la version ceci, etc. Même chose pour les timbres. Si, eh bien, il a été oblitéré, s'il n'a pas été oblitéré, etc., etc. Et nous voyons que ce sont des gens qui ont et qui gardent quelque chose. Ça ne va pas forcément changer leur vie, mais c'est quelque chose de précieux dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils s'arrêtent à un endroit et disent « Ah, mais tiens, je ne l'ai pas, celui-là. Ah tiens, celle-là, elle est comme la mienne. Ou tiens, ça, voilà. » C'est l'exemple que je voudrais vous donner par rapport à ces mots d'avoir et de garder. Voilà, c'est un attachement. C'est un attachement, c'est significatif. Mes amis, j'aimerais poursuivre en disant que nous sommes dans une période où chacun choisit ce qui est important pour lui. Chacun choisit sa cause, chacun choisit et défend sa cause. Nous l'entendons, hein. Je ne vais pas aller dans le détail parce que vous allez probablement vous dire on n'est pas d'accord avec toi sur ça, on n'est pas d'accord. Mais enfin, toutes les causes sont défendables aujourd'hui. J'entendais une personne... je voyais sur Internet une personne, excusez-moi, qui disait que nous ne devrions pas nous laver. Une personne qui disait clairement, écoutez, c'est pas normal que nous nous lavions. Nous ne sommes pas faits pour nous laver comme nous le faisons. Elle prétextait, cette personne, que nous sommes des animaux. Et est-ce que vous avez déjà vu les animaux se laver ? Et elle défendait le fait que notre corps n'était pas fait pour se laver. Donc, je me suis dit, celui-là, il ne va pas être mon ami. Et après, je me suis imaginé celui qui, derrière, allait nous dire qu'il faut se laver comme les chats, à se lécher le corps. Voilà. Je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui va nous sortir ça un jour. Et vous imaginez bien chacun d'entre nous se léchant les pieds pour... Voilà, je rigole avec ça. Mais aujourd'hui, toutes les causes, toutes les choses sont défendues, défendables, etc., etc. Chacun choisit, chacun revendique, chacun va juger que c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Et les chrétiens sont tentés par ces choses-là aussi. Les chrétiens sont, au milieu de ce monde, tentés par le fait de revendiquer. De ça, c'est important, plus que tout le reste. Ça, il faut manifester pour ça. Ça, c'est un sujet vraiment fondamental. Les chrétiens ont toujours, toujours été au rendez-vous des questions importantes. Ça, quand on connaît l'histoire, alors peut-être qu'ils ne font pas les choses pour se montrer, donc on ne les connaît pas tant que ça. On en connaît quelques-uns, hein. Mais les chrétiens ont toujours été au rendez-vous des questions de société. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est la question, en tant que chrétien, quelle règle a le plus de valeur pour vous dans votre cœur ? Chrétiens qui défendent la liberté, c'est bien. Pourquoi pas ? La culture aussi. Chrétiens qui aussi vont peut-être... défendre le fait de partager les richesses de ce monde avec ceux qui en ont trop, qui n'en ont pas. Pourquoi pas ? Il y en a qui vont parler et défendre des idées de tolérance. Pourquoi pas ? Mais ce texte nous dit bien quelle est la première chose qui doit nous préoccuper. C'est de garder ses commandements, d'aimer le Seigneur. On peut être les plus grands chanteurs, chrétiens, évangéliques, estampillé baptiste, tout ce qu'on veut. On peut être... Si on n'a pas compris ce que le Seigneur nous demande, qui est preuve de l'attachement que nous pouvons avoir pour lui, c'est-à-dire garder ces deux commandements. On pourrait, en tout cas, développer toutes ces instructions autres, mais au moins ces deux commandements, nous passons à côté de l'important. Moi, je me pose la question, l'amour pour Dieu, ce n'est pas forcément facile, n'est-ce pas ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On apprend à l'aimer, je pense que c'est quelque chose qui, au fil de la vie, se développe, parce que on voit son intervention, on comprend combien il nous a protégés, combien il est intervenu, combien... Et on mesure de plus en plus, au fil de la vie chrétienne, l'amour qu'il a pour nous, et on arrive à voir notre amour, notre attachement pour le Seigneur grandir. Par contre, l'amour pour le prochain. Frères et sœurs, ce n'est pas négociable. Hein. Ce n'est pas négociable. Nous sommes dans un monde où on nous monte les uns contre les autres. Ce monde nous invite à des choses, alors je ne veux pas dire voilà, un monde uni, je ne veux pas avoir ce discours-là, mais l'amour réel pour le prochain, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif dans les yeux ou dans le cœur de notre Seigneur. Christ nous dit clairement que l'aimer, c'est garder ses commandements. Et autant Jude veut l'éclatante révélation de Christ, autant, eh bien, cette révélation n'est pas éclatante, mais elle s'opère dans nos cœurs. Quand on lit la parole, quand on écoute le Seigneur, quand on prend au sérieux ce qu'il nous dit, et on s'engage à dire, mais Seigneur, je ne suis pas parfait, je n'y arriverai pas. Vous avez noté, hein, tout à l'heure, il n'a pas dit, hein, Yvon, il n'a pas dit que ceux qui sont parfaits, vous levez pour la Sainte Cène. Hein. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Hein. Voilà, ceux qui sommes au bénéfice du sacrifice de Christ, nous avons besoin de cela, eh bien, tout cela, eh bien, nous mesurons comment le Seigneur nous demande de prendre au sérieux sa parole. Et donc, j'en arrive à cette promesse. Premièrement, une question. Deuxièmement, une condition. Troisièmement, une promesse. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Là, on parle à des chrétiens, hein, on est d'accord. Hein ? Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Nous avons déjà le Seigneur quand on est chrétien. Le Seigneur, il vient dans notre vie et on le sait. Il est question de ça et aussi d'autre chose. Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu qui se manifeste dans la vie, il faudra connaître, il se manifestera, et Dieu qui habite dans ma vie. Je constate aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, et encore une fois, c'est des généralités qui ne veulent rien dire, mais malgré tout, il y a un certain nombre de chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de la manifestation de Dieu dans leur vie. Oui, on est dans un monde, en tout cas dans notre partie du monde, où on arrive à se suffire. On a ce qu'il nous faut, on a de l'argent, on a des médecins, on a tout un tas de choses qui garantissent un niveau de vie suffisamment intéressant. On est intelligent aussi. Voilà. Évidemment, Dieu nous a donné de l'intelligence. Et il attend à ce qu'on s'en serve. Mais voilà, je sais me débrouiller, je gagne bien ma vie. Je n'ai pas vraiment foncièrement besoin de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une erreur, c'est une très grave erreur, une erreur théologique, mais c'est aussi une illusion. Dieu nous apprend à compter sur lui. Si vous êtes son enfant, il va vous apprendre à vous appuyer sur lui. Si vous êtes son enfant, il va vous apprendre que vous avez besoin de lui, que nous avons tous besoin de lui. Je connais le Seigneur depuis pas mal d'années. J'ai redonné mon cœur au Seigneur quand j'étais dans l'adolescence. Et merci Seigneur, il a pu me faire comprendre mon besoin de lui à ce moment-là. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais je m'estime que relativement intelligent, cérébré. Mais je vous le dis, si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, si on veut faire sans lui, à ce moment-là, On se trompe. Ne nous comportons pas comme des gens indépendants de Dieu. Jésus-Christ veut se manifester dans notre vie. Jésus-Christ, Dieu, veut faire sa demeure en nous. Si seulement nous pouvions comprendre notre besoin de lui. Notre besoin de lui. Quand tout va bien. Et quand cela est un peu plus difficile. Alors, quand on lit ce texte, je reviens à notre texte, on comprend bien ce qui est dit. Jude demande la manifestation claire de Christ, le roi de gloire. Et Christ répond, il y aura une manifestation dans votre cœur. Et c'est ça le témoignage que je veux que vous rendiez dans votre génération. Il veut montrer au monde ce qu'il fait dans un cœur. Il veut montrer au monde qu'il est vivant parce qu'il vous transforme, parce qu'il nous transforme. Et ce qui est touchant dans ce texte-là, c'est que entre cette manifestation de la vie de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu, il y est associé l'obéissance, le fait de garder ses commandements. J'aurais préféré ne pas les mettre dans cette logique, n'est-ce pas, en disant, voilà, tu m'aimes, je t'aime, je vais être au milieu. Non, il nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous gardez mes commandements. Et c'est pour ça que les chrétiens se distinguent. Christ, je le répète, ne nous challenge pas sur le fait d'être des bons chanteurs. Merci, merci Seigneur, nous avons des bons chanteurs, des bons orateurs. Merci Seigneur, il y en a quelques-uns. Ou des bons organisateurs, mais ce n'est pas là-dessus. Ou des bons donateurs. Nous avons noté au conseil d'administration, la semaine dernière, je fais un petit écart, sur le fait que beaucoup d'entre vous donnent à la vie de l'Église, et ça nous a permis de faire un don particulier à Evan Drake. Vous savez qu'ils sont en train de construire l'Institut biblique des Savanes. Et donc, du fait que les dons étaient importants, le mois de décembre, on a pu envoyer 1 000 euros pour la construction là-bas, puisqu'ils veulent terminer ce bâtiment avant mi-mars. Voilà, je fais une petite parenthèse et je vous dis juste que nous sommes en train de chercher à avancer dans ce sens-là. Pour autant, ce n'est pas des grands donateurs que Dieu cherche. Pour autant, ces choses ont de l'importance. Mais ce qui l'a prévu dans ce texte, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons un témoignage vivant, vivant de la présence de Dieu dans nos vies. Pour l'heure, c'est la façon dont Dieu veut se faire connaître. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, changer nos cœurs. Changer nos cœurs, de pierre en cœur de chair. Dieu, Christ, veut se manifester dans ce monde en montrant qui il est, en transformant nos cœurs et en agissant au travers de ses enfants. J'ai un peu de temps, je vais pouvoir aller un peu plus en avant là-dessus. On a évoqué au conseil d'anciens hier Joseph. Vous connaissez Joseph ? Et si vous êtes encore attentif suffisamment pour me suivre, je vous invite à aller au Genèse 41. Je vais en profiter puisque le frère m'a laissé un peu plus de temps. Genèse 41. Vous connaissez l'histoire de Joseph, quand même. Voilà, il n'y a pas trop de... Et quand nous sommes dans ce chapitre-là, très brièvement, très rapidement, Joseph est mis en prison pour un certain nombre de choses, d'accusations dont il n'est pas non plus responsable. Et là, à un moment donné, Pharaon va faire un rêve et on va demander il cherche quelqu'un pour interpréter son rêve. Et là, l'idée, on va se rappeler qu'il y a Joseph qui est quelqu'un qui peut interpréter les rêves. Et quand on lit ce chapitre 41, c'est le passage pour Joseph de la prison, du palais, à la place principale, juste derrière le pharaon en Égypte. Et donc, Joseph est appelé devant Pharaon Et quand on lit au verset 16 la réponse qui est faite à cette demande de se présenter devant lui, Joseph répond au Pharaon, « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu qui répondra, qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. » Et quand on continue ce chapitre, sans aller trop dans les détails, et que l'on arrive un peu plus loin, on l'a relevé hier encore, au verset 38, il est dit, « Le Pharaon leur dit, « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. » C'est évidemment, on ne va pas se prendre pour des Joseph, mais c'est clairement ça dont il est question dans notre texte, n'est-ce pas ? C'est cette capacité que Dieu a de prendre n'importe qui, petit, grand, insignifiant, parmi nous, parmi son peuple, et d'en faire quelqu'un qui va rendre un témoignage vivant de qui il est, de ce qu'il peut faire, et que c'est un Dieu qui sauve. Et c'est ça que Dieu veut faire, Dieu veut rendre comme témoignage. C'est la promesse que Dieu nous fait encore aujourd'hui, encore ce matin. « Celui qui garde mes commandements, je me manifesterai à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Nous ferons notre demeure en lui. Vous savez, on a beaucoup de titres parmi les chrétiens. Le pasteur, l'évêque. On a même inventé d'autres titres qui laissent entendre qu'il y a des gens qui seraient d'un niveau supérieur aux autres, etc., etc. Il y a des responsabilités différentes, c'est vrai. Mais ce texte nous dit bien qu'il y a deux sortes de chrétiens, n'est-ce pas ? Il y a ceux qui gardent ces commandements et qui sont au bénéfice de la manifestation de la vie de Dieu en eux, qui ont cette demeure où Dieu est là. Je vous propose de vous approprier cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'appropriez cette année 2026. Je vous propose de, non pas voilà, être les choses troubles, mais de vous dire, voilà, j'aimerais y réfléchir, jour après jour. Qu'est-ce que je fais de ces commandements ? Est-ce que je les garde ? Est-ce qu'ils influencent ma façon de voir ? Ma façon de parler ? Est-ce qu'ils vont m'inviter à changer mon attitude vis-à-vis du prochain ? Est-ce qu'ils vont peut-être me donner de l'amour pour lui ? Je vous propose de vous approprier cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous le voulez bien, et avec l'aide de notre Seigneur, de faire en sorte que sa vie, son témoignage se manifeste au travers de chacune de nos vies, petits et grands. Prions. C'est vrai que, Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de grade parmi les chrétiens, il n'y a pas non plus de catégorie. Seigneur, à chacun, tu t'adresses, petit ou grand. Et à chacun, tu nous dis que tu veux changer nos vies pour ta gloire, pour rendre un témoignage vivant de qui tu es. Je te prie pour que nous puissions avoir les mêmes objectifs que toi pour cette année 2026. Et j'aimerais te demander dans ta grâce de nous aider, Seigneur, à nous rappeler par ton esprit ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous voudrions, Seigneur, te voir. Père éternel, tu es, c'est vrai, as accompli pour nous un salut éternel. Et Seigneur, tu es retourné au ciel. Et Seigneur, tu veux te manifester dans notre vie. Tu veux déjà, Seigneur, régner et montrer ton règne. Je te prie vraiment que tu puisses aider chacun d'entre nous dans nos combats, dans nos déceptions, dans nos luttes, dans nos difficultés, à garder, Seigneur, les yeux fixés vers ta parole. Seigneur, je veux te prier pour cette année en tant qu'Église, je veux te prier pour cette année, pour tous les responsables, comme Yvon l'a dit, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être équipés par toi, Seigneur, que que notre motivation, Seigneur, vienne de toi. Que, Seigneur, ce ne soit pas des cathédrales que nous construisions, Seigneur, pour te dire tu dois être à cet endroit-là, mais que nos cœurs soient une cathédrale pour toi. Au nom de Jésus-Christ.